Bonjour à toutes et à tous au micro Idrissa Sebulia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Le président américain Donald Trump a annoncé mardi une pause de 60 jours sur l'immigration qui s'appliquera aux demandes de cartes vertes ou aux résidents permanents, mais pas aux visas de travail temporaire. Le décret sera probablement signé ce mercredi. Cette pause sur l'immigration placera les Américains sans emploi en première ligne pour les emplois au fur et à mesure de la réouverture de l'Amérique, a expliqué M. Trump. Le pays compte 22 millions de nouveaux inscrits au chômage. Le Sénat américain a adopté mardi à l'unanimité un nouveau plan de près de 500 milliards de dollars pour soutenir les PME durement frappé par la crise liée au COVID-19, aider les hôpitaux et renforcer le dépistage du coronavirus. Le nombre de morts sur 24 heures est brutalement reparti à la hausse aux États-Unis mardi, avec 2751 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus selon l'université Johns Hopkins, soit l'un des plus lourds bilans quotidiens pour un pays. Les États-Unis ont également dépassé mardi la barre des 800 000 cas officiellement recensés, avec près de 40 000 cas supplémentaires, et déplorent 44 845 morts. « Je vois la lumière au bout du tunnel », a pourtant répété le président Trump mardi lors de sa conférence de presse quotidienne. Le PAM, le Programme alimentaire mondial, a prévenu mardi que le COVID-19 risquait de provoquer en 2020 un doublement du nombre de personnes au bord de la famine, atteignant plus de 250 millions et induisant une catastrophe humanitaire mondiale. Avec, selon un décompte de l'AFP, plus de 2,5 millions de personnes malades, la pandémie a déjà fait plus de 177 000 morts, plonger 6 humains sur 10 dans les affres du confinement et provoquer des répercussions économiques potentiellement dévastatrices. En Afrique du Sud, pays le plus touché en Afrique subsaharienne, avec 3465 cas confirmés, dont 58 morts, le président Cyril Ramaphosa a annoncé mardi un énorme plan de soutien économique et social d'un montant de 24,4 milliards d'euros pour soutenir les entreprises et les personnes les plus vulnérables confrontées à la pandémie. Selon M. Ramaphosa, cette enveloppe va aider des millions de Sud-Africains dans l'économie informelle et les chômeurs qui se battent pour survivre, alors que, je cite, « la pauvreté et l'insécurité alimentaire se sont aggravées de façon spectaculaire au cours des dernières semaines ». Dans le reste de l'actualité, au Cameroun, après avoir nié pendant longtemps toute responsabilité de son armée, la présidence a admis mardi que 13 civils, dont 10 enfants, avaient été tués mi-février par 3 militaires et des supplétifs dans un village du nord-ouest séparatiste anglophone. Un massacre qui avait suscité un tollé international. L'ONU avait parlé de 23 civils, dont 15 enfants et 2 femmes enceintes, tués dans le quartier de Narbou, du village de Ntumbo, dans la nuit du 13 au 14 février. Selon Yaoundé, maintenant, 3 soldats et un groupe d'autodéfense ont donné l'assaut contre une base de rebelles séparatistes, et après des échanges de tirs au cours desquels 5 terroristes ont été abattus, ils ont découvert que 3 femmes et 10 enfants avaient péri du fait de leur action. Pris de panique, les 3 militaires, aidés de certains membres du comité de défense, ont tenté de masquer les faits par des incendies, selon un communiqué. En Guinée, le nouveau Parlement a élu mardi à sa tête un proche du président Alpha Condé, qui peut désormais compter sur une assemblée entièrement à sa main, alors que l'opposition l'accuse de préparer sa candidature à un troisième mandat. Dans un contexte de crise politique en cours depuis des mois, Amadou Damaro Camara a été élu président de l'Assemblée par 98 voix contre 6 à son adversaire, Mohamed Lamine Kaban, à l'absence non seulement des principaux dirigeants de l'opposition, mais seulement aussi des diplomates étrangers. début de nos informations, le baril du pétrole américain a enregistré lundi une chute à moins de 37 $, après une chute vertigineuse de la demande et des réserves américaines proches de la saturation. Eric Manirakiza.
Face à une demande en chute libre en raison de la pandémie de COVID-19 et une offre devenue surabondante dans le ciel de la guerre des prix, le cours du baril de pétrole américain pour livraison en mai est passé lundi en dessous de zéro. Une première dans l'histoire, les vendeurs se sont résolus à payer pour se débarrasser du pétrole, faute de moyens de stockage. Le président Donald Trump a annoncé qu'il avait l'intention d'ajouter 75 millions de barils à la réserve stratégique des États-Unis. Il a précisé qu'il allait soit acheter cette quantité de pétrole si le Congrès lui donne le feu vert, soit ouvrir à des tiers la capacité de stockage qui fait cruellement défaut ailleurs en échange d'une rémunération. Le marché a été inondé après que l'Arabie Saoudite a lancé une guerre des prix avec la Russie pour obtenir un maximum de parts. Mais Riyad ne sort pas indemne de cette guerre, tout comme ses voisins du Golfe, dont les recettes publiques dépendent pour l'essentiel des ventes de pétrole. Les prix ont continué à dégringoler lorsqu'il est devenu clair que les réductions promises entre l'OPEP et la Russie ne suffiront pas à compenser l'effondrement de la demande.
En République démocratique du Congo, au moins 52 personnes sont mortes dans les récentes inondations à Uvira dans l'est du pays. Des responsables locaux affirment que de nombreux habitants sont portés disparus. Eddy Issango.
Près de 80 000 personnes ont été touchées par les fortes pluies dès jeudi et samedi, avec des inondations qui ont détruit près de 15 000 maisons selon les Nations Unies. L'administrateur du territoire, Alexis Kasangala, parle des 52 corps enterrés lundi, 30 dans la ville d'Uvira. Le maire adjoint de la ville soutient que des personnes restent coincées dans les décombres. Des casques bleus pakistanais en poste à Uvira ont participé à des opérations de sauvetage selon un tweet de la mission des Nations Unies au Congo, avec des photos et des vidéos montrant des impressionnants flots d'eau boueuse. Le gouvernement de Kinshasa a envoyé sur place une forte délégation, ce qui a poussé à des réticences de la part des représentants de la société civile qui s'inquiètent de la propagation du COVID-19. L'évêque d'Uvira, Mgr Sébastien Muyengo, s'inquiète de ce que la ville soit coupée du reste du pays et estime que les déboisements est une des causes des inondations répétées dans la zone.
Au Mozambique, plus de 50 civils ont été tués le 7 avril dans un village de l'extrême nord du pays lors d'une attaque des groupes djihadistes. Les faits ont été rapportés hier par la police Abdourahmane Dia.
Les malfaiteurs ont tué cruellement et diaboliquement 52 jeunes du village de Hitaki dans le district de Mouidoumbe le 7 avril, a déclaré le porte-parole de la police Orlando Mundumane, cité par la radio nationale. Ce massacre s'est produit lorsque les jeunes du village ont refusé de rejoindre les rangs des islamistes. Les jeunes ont résisté, ce qui a provoqué la colère des malfaiteurs, a-t-il poursuivi. Selon le porte-parole de la police, les victimes ont été exécutées par balles, certaines d'entre elles décapitées. Le groupe djihadiste responsable de cette attaque opère depuis octobre 2017 dans la province à majorité musulmane du Cabo Delgado, riche en importants gisements gaziers sous-marins. Ces violences ont fait au moins 900 morts selon un récent décompte de deux ONG et causé le déplacement de plus de 150 000 personnes selon les autorités. Ces dernières semaines, ce groupe, désigné par les populations locales sous le nom d'Al-Shabaab, a brièvement occupé plusieurs villes de la province. Malgré les promesses maintes fois répétées du président mozambicain Philippe Nyusi, ni la police ni l'armée n'ont réussi à rétablir l'ordre dans cette province.
La Minute Éco est qui abonne.
Plus de 40% des entreprises sud-africaines redoutent de ne pas survivre à la pandémie de coronavirus et au confinement total depuis plus de 3 semaines, indique un sondage de l'Institut national de la statistique. Le sondage a été réalisé pendant les 2 premières semaines du confinement ordonné le 27 mars par le président Cyril Ramaphosa. Seuls les services jugés essentiels ont été autorisés à continuer à opérer pendant ce confinement prolongé jusqu'au 30 avril. Toujours dans la lutte contre les effets socio-économiques du coronavirus, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a annoncé un appui de 530 milliards de francs CFA du FMI au gouvernement. D'autres appuis sont attendus de l'UEMOA, la BAD, la Banque islamique de développement, l'Union européenne ou encore la Banque mondiale. À l'issue d'une nouvelle séance mardi sur le marché pétrolier, le baril américain pour livraison en mai est repassé au-dessus de zéro. La situation reste douloureuse avec les plongeons historiques des prix du baril pour livraison en juin. À New York, le prix du baril est tombé lundi en dessous de zéro. Les investisseurs ont été réduits à payer les acheteurs pour écouler leur brut au risque de se retrouver avec du pétrole en surplus. Mardi, il a rebondi à près de 10 dollars le baril. C'est un léger rebond qui ne présage pas une embellie pour les semaines à venir.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le défenseur ivoirien de Tottenham, Serge Aurier, et son coéquipier français Moussa Sissoko se sont excusés pour ne pas avoir respecté les règles de distanciation sociale. En tant que footballeurs professionnels, nous avons la responsabilité d'être exemplaires, particulièrement dans cette période incertaine que le monde affronte, ont déclaré les deux joueurs s'engageant à faire un don financier au service de santé britannique. Les Spurs ont pu constater l'indiscipline de leurs joueurs grâce à une vidéo postée par Aurier sur son compte Instagram mardi avant de l'effacer. On y voyait le joueur de 27 ans, masque sur le visage, faisant des sprints courts, puis assis à côté de Sissoko sans respecter la distance de sécurité. Toujours en Angleterre, l'ONG Amnesty International a averti la Première Ligue qui doit étudier prochainement un projet de reprise de Newcastle par des fonds saoudiens. Selon la presse, un consortium saoudien dans lequel est impliqué le prince héritier Mohamed Ben Salman a versé une avance non remboursable de 19,5 millions d'euros au propriétaire du club Mike Ashley dans le cadre d'une offre de rachat de 345 millions d'euros. Mais Kate Allen, directrice britannique de l'ONG qui lutte pour le respect des droits de l'homme dans le monde, a écrit au président de la Premier League, Richard Masters, pour l'avertir du risque en termes d'image que court son institution. En athlétisme, le marathon de Berlin n'aura pas lieu comme prévu les 26 et 27 septembre à cause de l'interdiction de rassemblement dans la capitale allemande liée au coronavirus. Nous avons appris que tous les événements impliquant plus de 5000 personnes seront interdits jusqu'au 24 octobre, expliquent les organisateurs dans un communiqué, sans donner à ce stade de nouvelles dates. Plusieurs dizaines de milliers de personnes participent chaque année à cette course. En 2019, l'Éthiopien Kenenisa Bekele a gagné, échouant à 2 secondes du record du monde. Ici aux États-Unis, les familles de 4 passagers tués dans l'accident d'hélicoptère, aussi fatal à Kobe Bryant et sa fille Gianna, ont entamé des poursuites judiciaires contre la société propriétaire de l'appareil et celle qui l'exploitait. Elles ont déposé des plaintes séparées devant la Cour supérieure de Los Angeles. Les plaignants attaquent Iceland Express Helicopters et Iceland Express Holding pour conduite imprudente, négligente et illégale. Il y a 2 mois, Vanessa Bryant, la veuve de l'ancienne gloire des Lakers et mère de leur fille Gianna, a entamé des poursuites judiciaires contre ces sociétés. Elle a aussi attaqué les ayants droit du pilote de l'hélicoptère, Ara Zoubayan, lui aussi mort dans l'accident, dont les causes font l'objet d'une enquête.
Chers auditeurs et auditrices, c'est Natou Camara, votre artiste, chanteuse, compositrice. Aujourd'hui, nous luttons contre l'invisible coronavirus, une pandémie qui ravage nos vies autour du monde. Pour sauver ma vie et celle des autres, je respecte le confinement et les distances de sécurité. Je prends mes mesures sanitaires, je me couvre le visage quand je tousse ou quand j'éternue. Je me lave les mains régulièrement et porte des gants lorsque je sors de chez moi. Mes chers amis, famille, fans de tous les jours, auditeurs et auditrices, pour mettre fin à cette pandémie, protégez-vous et protégez votre entourage. À très bientôt dans nos vies de tous les jours et dans les concerts. Portez-vous bien et prenez soin de vous.
Ba 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 ba.
aujourd'hui VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Chute sans précédent dans l'histoire de l'or noir, le prix du baril de pétrole est en dessous de 0 $ pour la livraison du mois de mai, dont les contrats expirés cet après-midi sur les marchés boursiers américains. Une situation créée par la forte production pétrolière et la pandémie de coronavirus qui a fait reculer la demande. Joint par Bagasikoura ici à Washington, Jean-François Seznec, professeur de finance à l'université Georgetown, revient sur la chute historique de lundi.
Écoutez, je pense que c'est une cause tout à fait technique au sens où 90% du pétrole sur le marché de New York est du pétrole acheté sur papier, c'est du papier spéculatif, il n'y a que 10% simplement des marchés qui sont en fait distribués et qui sont reçus en pétrole physique. Donc les gens, comme en ce moment, il y a très peu de demandes pour le pétrole physique, il y a très peu de demandes pour le papier spéculatif, et les gens qui avaient beaucoup de papier spéculatif hier étaient obligés de vendre, même à perte, pour se débarrasser de leur papier, sinon ils auraient été obligés de prendre possession du pétrole, ce qui est vraiment très difficile pour eux et même impossible. Donc ils ont vendu à n'importe quel prix, et puis bien sûr il y a d'autres spéculateurs qui ont pris avantage de ça pour gagner de l'argent. Mais si on ne peut pas vendre le papier, il faut le vendre à n'importe quel prix, et même si c'est à perte. Le fait est quand même que la raison pour laquelle ce papier n'était pas accepté par les autres acheteurs, si vous voulez, c'est que la demande physique pour le pétrole est très faible pour le moment à cause du virus.
On a vu, on a parlé de prix négatifs. Pour nous, ça veut dire quoi?
En gros, on peut simplement dire qu'il y aura toujours un certain prix à payer pour le pétrole, mais si effectivement il y a beaucoup trop de supply, hein, il n'y aura pas assez de demande et par conséquent, les prix vont continuer à tomber. Mais à court terme, ça s'arrêtera très rapidement, on n'aura pas de prix négatif. Mais par contre, on peut avoir des prix très bas.
Oui, des prix très bas. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour mettre fin à cela? Est-ce qu'il faudrait une diminution de l'offre et la fin de l'épidémie?
Oui, c'est tout à fait ça. Il faut d'abord que l'offre qui soit passée par les producteurs de pétrole diminue. C'est-à-dire que ils ont décidé de couper la production de 15 millions de barils, c'est bien, mais la demande a diminué de plus de 30 millions de barils à cause du virus. Donc ça crée des gros problèmes. Et même s'il y a des coupes sombres dans la production, et si la production est toujours supérieure à la demande, les prix vont continuer à tomber, c'est sûr.
Oui, et pour un pays comme le Nigeria, grand producteur de pétrole, c'est des moments très difficiles.
Ben oui, bien sûr. Alors le Nigeria a produit un pétrole de très grande qualité qui a un premium important sur les marchés mondiaux, mais même la qualité dans ce cas-là ne sera pas acceptée par les raffineries qui ont besoin de ce pétrole et les prix vont continuer à tomber, ce qui veut dire que le Nigeria va avoir des pertes de revenus substantielles.
Jean-François Seznec, professeur de finance à l'université Georgetown.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Chaque jour, le nombre de malades du Covid-19 grimpe en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 879 cas déclarés positifs à ce virus, dont 10 décès. C'était justement pour freiner cette évolution rapide du coronavirus que les autorités ivoiriennes ont rendu le port du masque obligatoire. Aïcha Diarra a fait le tour des rues de Yopougon, un quartier populeux d'Abidjan, pour constater la mise en pratique de cette mesure 2 semaines après son instauration. Son reportage.
Nous sommes à Yopogon-Sikoji à la gare des bus Sotra. Pour accéder à l'intérieur des bus, le port du masque est obligatoire, ce qui n'est pas aisé pour tout le monde. C'est le cas de Fulgence Kouassi.
Moi, particulièrement, quand je porte le casque, ça me fatigue un peu parce que je n'arrive pas à respirer.
D'autres voyageurs, par contre, sont très à l'aise, comme Sandrine Conan, qui est commerçante.
Bon, moi, je porte le casque, c'est pour éviter la maladie. Parce que nous, on est là, on va en être plus exposés. Puis pour les enfants aussi, pour éviter aussi les enfants aussi d'être malades.
Porter ou ne pas porter, une chose est sûre, dans les rues d'Abidjan, les personnes portant les cache-nez sont moins nombreux que ceux qui n'en portent pas. Ngouran Assemia témoigne.
Moi, j'ai été à Port-Bruy-2. Je me suis promené. Si j'ai vu les gens porter le cache-nez, il n'y a pas plus de 9 personnes. Pourquoi? Est-ce que c'est l'information qui passe ça? Est-ce que ces gens-là ne se sont pas concernés?
Certains justifient ne pas porter le masque facial à cause des malaises et pour d'autres, c'est le manque de moyens financiers. Pour Omar Fofana, un masque, c'est trop cher.
Vraiment, on n'a pas le moyen pour payer. Bon, le gouvernement dit qu'il allait nous envoyer aussi.
Au fait, c'est facile à trouver le masque. C'est la poche qui fait la différence. Bon, les prix, même cette main, c'est pas élevé quand vraiment, c'est pas facile. Quand on passe à la nourriture, bon, le quotidien, quand gagne, on a gagné.
Dans le même sens, Jean Aké estime que le gouvernement devrait en faire un don avant d'exiger quoi que ce soit.
Dans les grands surfaces, surtout dans les cars, les bus, on exige forcément le cache-nez. Normalement, avant d'exiger ça, on doit nous partager au moins ça.
Cette exigence du masque facial a fait naître un grand business. Tout le monde veut les vendre, ce qui ralentit le chiffre d'affaires des vrais commerçants.
Moi, j'en vendais avant, mais j'ai arrêté parce que depuis lors, il faut dire que tout le monde s'est mis dans la danse. Voilà, aujourd'hui, tout le monde vend des cache-nez et ça ne marche plus. Aujourd'hui, tu mets ton argent dedans, tu as du mal à avoir ton capital.
Kadi Touré, elle aussi commerçante, trouve ce commerce très difficile aujourd'hui.
Non, vend les cache-nez, vraiment, c'est dur. Bon, on va au marché aussi pour retrouver souvent, ils ont augmenté le prix, tout ça là. Donc, quand on dit maladie là, il faut qu'on vende, on peut faire moins cher. Mais c'est pas nous mettre notre souhait quand on cherche l'argent dessus, mais c'est une maladie qui est là, donc on est obligé de vendre.
C'est toute une variété de cache-nez qui se vend dans les rues d'Abidjan. Rien ne garantit leur efficacité contre le coronavirus. L'essentiel pour la plupart, c'est d'avoir juste quelque chose pour protéger une partie du visage. Aïcha Diarra, Abidjan pour VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, nous nous penchons sur les médias et l'accès à l'information durant cette pandémie du COVID-19. Au moment où la majorité de la population est confinée, Internet devient plus que jamais essentiel dans le travail des journalistes et pour un public avide d'informations crédibles en cette période de crise sanitaire. Comment les médias s'organisent-ils pour continuer à informer le public? Comment aider les populations à identifier les fake news? Les gouvernements doivent-ils rendre Internet plus accessible, surtout en cette période de crise? Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi 23 avril à 19h, temps universel sur VOA.
Après 3 semaines de fermeture, le grand marché de Ouagadougou a rouvert lundi, suite à la colère et aux menaces de certains commerçants. Le grand marché de Bobo-Dioulasso a également repris son activité. Les marchés au Burkina Faso étaient fermés depuis le 31 mars afin d'éviter la propagation du coronavirus. Alidou Ouedraogo, correspondant de VOA Afrique à Bobo-Dioulasso, est allé à la rencontre de certains commerçants.
Nous sommes très très contents parce que ça nous fait le 21 jour aujourd'hui. On n'a pas été au marché.
À chacune des 4 entrées de l'édifice commercial, des haut-parleurs annoncent les mesures barrières qui sont d'ailleurs loin d'être respectées. Un seul dispositif de lave-main et une boule de savon pour plusieurs centaines de personnes, des commerçants et clients confondus sans aucune distanciation sociale. Certains ne semblent pas rassurés.
Les lave-main, ils n'ont pas bien fait. Parce que là-bas, il y a erreur.
Seydou Zongo gère un magasin de prêt-à-porter.
Quand ils lavent, c'est toi-même qui ferme là. Le virus là-même, tu peux reprendre. Il partait avec un suicidant, parce que ça va pas. On doit mettre des forces pour que ça soit nombreux, quoi.
Malgré ces conditions très peu recommandables, certains commerçants comme Seydou Zongo sont contents de retrouver leurs activités.
Je sais que si on est content, on est rentré, ça va un peu plus. Le manque de clients, sinon, parce que les gens ont peur de rentrer. C'est pas le problème d'abord.
Devant ces bidons pleins d'huile rouge, Biba Ouattara, elle, a un souci majeur.
À cause de la maladie, là, si les clients ne viennent pas, comment on va faire? On nourrit nos enfants à la maison. Et puis, là, au moment que carrément commencé. Il n'y a pas l'argent. Comment tu vas faire?
Vêtu d'une chemise multicolore et portant un masque, Abdoulaye Ganamé, venu au marché par curiosité, fustige l'autorité communale.
Vous avez pris l'engagement d'ouvrir le marché. Donc maintenant, vous venez regarder, est-ce que les dispositifs sont normales? Si ce n'est pas normal, vous, quand même, vous devez agir. La veille même de l'ouverture, vous devez quand même contrôler ça d'abord. C'est pas un petit marché. Si vous ne prenez pas les dispositions, la fermeture du marché, ça revient à égal à zéro.
L'ouverture du marché est un vrai sujet à polémique qui divise fortement l'opinion publique à propos du lac. Chaque groupe avec sa raison.
Concernant l'ouverture du marché central, bon, vraiment, je pense que c'est trop tôt. Il fallait attendre un peu. Maladie, on sait qu'il y en a. Quand on ouvre comme ça, vraiment, ça peut créer beaucoup d'autres choses dans la ville.
C'est vrai qu'il faut protéger la population contre la maladie, mais il y a aussi la pauvreté qui est là chaque jour, qui crée d'autres problèmes encore.
Pour le moment, seul le grand marché est ouvert et les autres plus petits dans les quartiers restent fermés. Et personne ne sait jusqu'à à Bobo du Lasso, la correspondance de Alidou Edraogo.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Gabon, durant cette période de confinement total à Libreville pour enrayer la pandémie de Covid-19, les habitants les plus démunis s'attendent à des aides sociales promises par le gouvernement. La distribution, qui a déjà commencé, semble sélective selon certains observateurs. Le point avec notre correspondant sur place, Ismaël Obiangze.
Le gouvernement gabonais tente de tenir ses promesses d'aide sociale au bénéfice des citoyens économiquement faibles. La banque alimentaire mise en place pour les plus démunis a déjà apporté de l'aide à certains foyers de Libreville et ses environs.
On ne savait pas quand on devait recevoir ces bons-là. Parce que depuis la journée, on nous a dit qu'on n'aurait plus ces bons-là. C'est annulé.
Projet du chef d'État concernant un peu les personnes diminuées qui devaient venir en aide auprès de ces dernières, c'est concrétisé au sein du quartier d'arrondissement, particulièrement le quartier plein et rien bien. Je crois que ce n'est pas du mensonge, c'est du concret, tant plus que j'ai les deux bons avec moi.
Après une semaine d'opération de distribution des kits et des bons d'achat alimentaires, plusieurs ménages se plaignent de n'avoir rien reçu en soutien au sacrifice du confinement total de la capitale gabonaise.
Ils donnent à leur famille. Nous, on est là, on n'a rien reçu. On écoute seulement les bons, on voit seulement la télé, les autres qui ont eu. Nous, on est là, on n'a rien, on a faim.
Ils ont sauté des maisons, c'est pas prêt. À plein de gens, il y a eu peut-être 10 ou 20, mais les restes, rien. Ici, la journée, c'est Mado. Là, on n'a rien, oui. On n'a rien. Avec nous, nous n'ont rien donné.
Ils ont donné chez le chef.
Indexé par tant de plaintes, le ministère de la Solidarité nationale, chargé de la dite mission, a organisé une réunion de crise avec un rappel à l'ordre ferme de ces différents points focaux. Prisca Koho, ministre gabonais de la Solidarité nationale.
Qui que ce soit qui mérite d'avoir les bons, vous les leur donnez. J'insiste là-dessus parce que si c'est vous qui commencez à faire le crime, alors qu'on n'a pas de moyens de tout ça, et que vous-même vous chassez les émeutes, vous sautez les maisons, les rapports me sont faits. Moi, je ne peux pas me diriger en 150 000 personnes pour me retrouver à aller régler les problèmes dans les différents points de distribution. Mais je dis le message est le suivant. Tout le monde, si vous avez constaté que la personne correspond aux critères qui ont été indiqués, cette personne doit avoir son bon.
À quelques jours de la fin de la mesure de confinement total de Libreville, et selon un bilan officiel, 3616 des 60 000 bons d'achat d'aliments prévus ont pu être distribués aux ménages. Au titre d'autres mesures d'appui aux familles pendant cette période de crise, le gouvernement gabonais a satisfait la promesse de la gratuité de l'électricité, mais celle du gel des loyers pour les personnes n'ayant pas ou plus de revenus mensuels reste soumise à de longues procédures administratives. Libreville, Ismaël Obianzé, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sevilla et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.